Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
NoWatch.fm.
Incredible web shows.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en janvier 2011 et c'est l'épisode numéro 52. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on parle technologie, internet et gadgets. Nous avons un épisode plutôt chargé, mais avant ça, je vais vous souhaiter une bonne année parce que si je ne m'abuse, le dernier épisode que j'ai fait d'ailleurs en solo, c'était en 2010. Donc bonne année à tous, j'espère que vous avez passé un excellent réveillon. J'espère aussi que l'épisode en solo vous a plu. Certains l'ont aimé, certains l'ont trouvé un peu trop lent. En tout cas, je vous remercie tous de votre feedback constructif. Si jamais, je vous rassure, pour ceux qui ne l'ont pas aimé, ça ne va pas toujours être comme ça. Et si je refais un épisode en solo, ça risque d'arriver parce que c'était quand même sympa, ça sera sans doute un petit peu différent. Je parlerai au moins un petit peu plus vite. On me dit dans la chatroom que c'était le 4 janvier, donc pas bonne année. Je le retire et je le reprends. et j'en profite pour dire bonjour à la chatroom très rapidement avant de me retourner vers mes co-animateurs. Le premier d'entre eux étant Jérôme Kainborg, puisque
salut à tous.
Tu vas bien, Jérôme?
Ça va.
En fait, normalement, les habitués de l'émission savent que normalement c'est Jeff qui nous accompagne une fois toutes les deux semaines. Mais au moment où je me connectais sur Skype pour avoir Jeff, je le vois tweeter, ou plutôt Instagrammer, ce qui fera plaisir à Jérôme, du haut de je ne sais quelle montagne où il a l'air de plutôt descendre une piste de ski. Donc je me suis dit, damned, il a dû oublier, et j'ai appelé hyper rapidement Jérôme qui a eu la gentillesse de venir.
Je n'étais pas sur les pistes de ski. Je suis le Zorro de l'émission, faute d'être le zéro en tech.
Je te remercie grandement. Je disais que c'était une émission un petit peu spéciale parce qu'on a un autre invité, donc Mehdi, qui nous rejoint directement de Tunisie. Comment vas-tu, Mehdi?
Bonsoir, ça va très bien.
Je suis vraiment heureux de t'avoir et je remercie Ediac de nous avoir mis en contact parce que je tenais à parler un petit peu de ce qui se passe en Tunisie. Alors, les auditeurs le savent, c'est pas une émission politique qu'on fait, mais je pense qu'il y a un aspect vraiment intéressant, un aspect tech dans ce qui s'est passé, un petit peu comme c'était le cas en Iran, et on en avait parlé dans une autre émission que je fais qui s'appelle le Phileas Club, qui est un petit peu plus politique et qui est en anglais, que je vous invite à aller retrouver si ce sujet vous intéresse. On aura une émission où on parlera un peu plus de Tunisie à la fin du mois. Mais entre-temps, donc, je voulais avoir l'opinion de quelqu'un qui a vécu la chose vraiment de l'intérieur. Et c'est ton cas, Mehdi. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi, histoire que les auditeurs te connaissent?
Je suis Mehdi Lamloum, je suis blogueur et vidéoblogueur tunisien. Je bosse dans une agence de pub en tant que digital planner. Donc le web, entre autres, c'est mon métier et ma passion.
Super. Et donc, toi, tu es à Tunis, tu y es depuis le début, je ne sais pas si on dit les événements ou la révolution.
Le début de ma vie, carrément.
D'accord. Non, je veux dire, tu y étais pendant toutes ces dernières 4 semaines ou 5 semaines.
Oui, absolument. J'ai tout vécu.
Et donc, tu es un Twitter actif et tu es actif sur les réseaux sociaux aussi. Alors, la première question que je voudrais te poser, c'est... en fait, d'abord partir d'un constat qui est que une grande partie de ce qu'on entend de ce qui se passe en Tunisie, enfin, en tout cas, les adeptes de Twitter et des réseaux sociaux voient énormément de bruit sur Twitter à propos de ce qui se passe en Tunisie, et un petit peu comme c'était le cas en Iran il y a, je ne sais plus, déjà un peu plus d'un an, on se pose la question, en tout cas depuis la France, de savoir si le fait de d'encourager le peuple tunisien ou de relayer les informations, ça sert vraiment à quelque chose, ou est-ce que c'est un petit peu dérisoire et finalement ça n'atteint pas les gens là-bas?
Il faudrait peut-être... je voudrais juste commencer par trois données très importantes.
Bien sûr, vas-y.
Il y a 4 millions d'internautes. 4 millions, ce n'est pas énorme. C'est, bon, d'un côté, c'est carrément, quasiment 40% de la population tunisienne. Il y a 2 millions de comptes Facebook. Autrement dit, il y a à peu près 2 millions de Tunisiens qui sont connectés sur Facebook, qui ont des comptes. Et il n'y a pas... tellement d'utilisateurs de Twitter. On doit être allé dans avec les récents événements et les gens qui sont arrivés sur Twitter, on doit être dans les 2, 3 000, allez, 4 000 grand maximum.
D'accord.
Donc, la communauté sur Twitter, elle n'est pas énorme en chiffres, en volume, mais elle est très, très active. Ce sont tous des blogueurs, des vidéoblogueurs, des personnes de la société civile, des geeks, des gens très actifs, des activistes sur Internet, énormément d'activistes sur Internet. Et le fait que Facebook a relayé, parce que je lis souvent que c'est une révolution Internet, je ne pense pas que ce qui s'est passé en Tunisie soit une révolution Internet. La révolution avait parti d'un gars qui probablement n'utilisait pas Facebook et connaissait très peu Internet, au fin fond de la Tunisie, qui s'est immolé par le feu pour protester. Après, le fait que les Tunisiens qui sont sur Twitter ont énormément relayé l'information, ont énormément posté, ont énormément tweeté, ont essayé de faire du trending topic sur les mots intéressants à la Tunisie, comme Sidi Bouzid et Tunisie. Ça a fait énormément de bruit et je pense que ça nous a beaucoup aidé que les Français, les Anglais, les Américains, enfin toutes les personnes qui sont sur Twitter et qui ont relayé l'information, elles nous ont aidé à atteindre les médias occidentaux, les médias internationaux, pour qu'ils relaient cette image-là et ne présentent, parce que je tiens à rappeler qu'il y a 3 semaines, les médias officiels en Tunisie relayaient l'information, ce qui se passait à Sidi Bouzid, à Kasserine, etc., comme de simples petits événements de casseurs, etc., etc., ouais. Et c'est absolument d'étouffer l'information. Il n'y avait quasiment qu'une ligne grand maximum sur les médias nationaux, donc oui, ouais. Twitter a aidé à relayer l'information.
Mais tu sais, j'irai même un petit peu plus loin et je risque de me faire un petit peu ridiculiser par les auditeurs. Mais
on adore ça, Patrick.
Oui, on a l'habitude en plus. Non, mais je dirais même que pour moi, en tout cas, ce médium, alors là on s'éloigne un petit peu de ce qui a influencé le peuple tunisien, mais ce médium m'a permis de prendre conscience à quel point la Tunisie était une dictature, parce qu'on commence à en discuter un petit peu, mais il y a énormément de gens qui, je pense, enfin j'imagine, étaient dans mon cas, qui voyaient vraiment tous les pays du Maghreb et la Tunisie en particulier comme, bon, évidemment c'était pas non plus la plus grande démocratie du monde, mais on avait l'impression que c'était un petit peu un régime un petit peu autoritaire, mais c'était surtout les plages et les vacances pour les Français qui voulaient passer quelques semaines au soleil et voilà, on n'avait pas du tout cette impression. Et en particulier, je parlais d'Edia tout à l'heure, qui a été très très actif depuis quelques semaines. Pour moi, en tout cas, ça a vachement aidé à me rendre compte de ce qu'était vraiment la Tunisie, en particulier quand ils ont commencé à parler de l'emprisonnement des blogueurs et du fait que l'État contrôlait entièrement, heureusement, les fournisseurs d'accès.
Il y a un troisième point que j'ai oublié de citer tout à l'heure. Ouais. Tous les sites de réseaux sociaux sont censurés, à l'exception de Facebook et de Twitter. Quand je dis réseaux sociaux, c'est même plateforme de partage. Toutes les plateformes de partage vidéo en Tunisie étaient censurées depuis 2007, 2008, 2009. Autrement dit, pas de Flickr, pas de YouTube, pas de Vellymotion, pas de Vimeo, pas de Watt TV, pas de Blip TV, rien. Ouais. On n'avait que Facebook en Tunisie.
Et comment se fait-il que... Parce que du coup, Facebook, il était possible de mettre des vidéos, des images. Comment se fait-il que le pouvoir ait laissé Facebook...
Eh bien, ils l'ont censuré une première fois. Ouais. Et il y a quasiment eu une révolte. Ils se sont dit, tiens, on ne veut pas de problème. Et c'était ça la politique du pouvoir, c'est on fait les choses, mais on ne veut pas de vagues. Du coup, lorsqu'ils ont censuré Facebook, tout le monde en a parlé, tout le monde a protesté. Et du coup, ils sont revenus sur leur décision, mais ils ont commencé à censurer des pages. Ils censurent des vidéos, ils censurent des liens vers des pages, ils censurent des liens vers des profils, etc. etc.
Et ça, c'était quand, la tentative de censure?
Je pense que ça date de 2008, un truc comme ça. Ça date de 2008. Et après, d'ailleurs, cette année, en fin 2010, ils ont censuré Mega Vidéo l'espace d'une après-midi. Ils ont censuré Mega Vidéo, c'était leur stratégie de censurer tous les sites vidéo. Et tout d'un coup, tu avais tous les Tunisiens qui, je ne vous cache pas, on regarde des séries en streaming beaucoup plus qu'on les achète, parce qu'on ne les vend pas ici, en copie originale. Forcément. Du coup, tu avais tous les Tunisiens, même des meufs qui n'avaient rien à voir avec la politique, qui commençaient à tweeter, à poster sur Facebook, genre rendez-nous Mega Vidéo, etc. Et ça a duré l'espace d'une après-midi. C'est pour vous dire à quel point le pouvoir n'aimait pas faire de vagues.
Enfin, ouais, ils n'aimaient pas la mot.
Autoritaire, paternaliste, tendre et doux, etc. Donc ça c'est très important.
On a l'impression par rapport à d'autres dictatures dans le monde qu'ils ménageaient leur com à l'externe. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on n'était pas tellement au courant que la Tunisie était aussi dure. Donc
il y a
une répression. Moi je savais je savais que c'était pas la démocratie et qu'il y avait un contrôle des médias. Mais c'est vrai qu'on découvre à quel point il y avait un contrôle. Mais aussi parce que la Tunisie, et je pense par le tourisme, ne voulait pas avoir une mauvaise image au niveau international. Donc ils faisaient attention à ce qu'ils censuraient. Et dès que ça faisait un peu trop de bruit, ils arrêtaient de censurer. Je me trompe pas en disant ça, Mehdi.
Disons que YouTube a été censuré en 2007. En 2007, il y avait genre 200 000 internautes en Tunisie. Donc vous comprenez que la censure de YouTube n'a pas fait de vague à l'époque. On n'était pas grand monde sur Internet, on était une toute petite communauté, et du coup, ça n'a alerté personne. Dailymotion, au même moment. Et c'était à l'époque des événements à Gafsa qui sont semblables à ceux de Sidi Bouzid, qui avaient provoqué la fermeture de YouTube ou Dailymotion parce que les gens partageaient les vidéos dessus. Et du coup, avec Facebook, avec 4 millions d'internautes, ce n'était plus possible de censurer sans que ça fasse de vagues. Donc la Tunisie a toujours ménagé sa communication à l'international, mais aussi au niveau local, puisqu'il y a un blackout médiatique énorme, que rien ne ressort, que les gens s'informent sur Facebook aujourd'hui en Tunisie. Enfin, s'informer jusqu'à il n'y a pas longtemps, mais là, ils vont commencer, j'espère, à regarder les médias, à écouter la radio, enfin, qui devrait donner plus de un contenu plus consistant et plus proche de la vérité. Mais ce que vous dites est vrai. La Tunisie, avant tous ces événements-là, avait j'ai l'impression que, surtout en France, on avait une perception d'un régime, comment ils disent déjà, paternaliste autoritaire. Totalement faux.
Ouais, et tu confirmes que pour vous, vous aviez l'impression, enfin, c'est pas que vous aviez l'impression, vous viviez dans une dictature et basta, c'était pas juste
une dictature sanguinaire, je tiens à préciser.
Ouais. Pardon, tu disais tout à l'heure qu'il y a à peu près 2 millions de comptes Facebook en Tunisie, c'est ça? Donc, donc Twitter, visiblement, c'était surtout, enfin, peut-être des leaders d'opinion qui ont joué sur les mouvements en relayant les messages ailleurs, peut-être, je sais pas,
mais. Oui, c'est ça.
Mais Facebook, en tout cas, à partir du moment où les médias officiels suivent la ligne du gouvernement, et uniquement cette ligne-là, est-ce que Facebook, là, joue... Parce qu'ici, on entend de temps en temps les manifestations s'organisent sur Facebook, etc. Est-ce que, pour le coup, Facebook a été un vrai vecteur de communication qui a contribué au fait que la révolution ou la révolte ne retombe pas et que les gens puissent continuer à s'organiser.
Laissez-moi vous faire un petit plan très très simple. Début de l'année, en fin d'année, on a Mohamed Bouazizi qui est à Sidi Bouzid, qui est un vendeur ambulant qui s'est immolé par le feu. La nouvelle est arrivée sur Internet, les gens l'ont prise sur Facebook. Et les habitants de Sidi Bouzid de la région sont allés protester justement devant une sorte de, disons, la mairie. Les flics les ont tabassés et les vidéos ont apparu sur Facebook. C'est ce qui s'est passé, c'est que les vidéos de tous les affrontements sont apparues sur Facebook. Les gens ont commencé à prendre conscience. Pendant ce temps-là, il y avait un blackout médiatique total, mais absolu sur tous les médias. On n'en parlait même pas. Ça a commencé à enfler et grâce, entre autres, à Facebook, parce que les gens avaient des nouvelles grâce à Facebook. Ils voyaient les vidéos, ça bougeait dans d'autres villes, des manifs, des protestations, des gens qui s'affrontent, qui y avait des affrontements très violents avec les flics. Et du coup, ça a fait effet boule de neige. Vous voyez, toutes les régions, tous les gens de partout en Tunisie commençaient à se dire, tiens, ça bouge dans cette région, tiens, ça bouge dans cette région, tiens, regarde ce qu'ils font, tiens, tiens, ces gens-là, ils se battent pour leurs droits. Et à partir de là, les médias se sont rendus compte qu'il y avait un vrai danger pour eux, donc ils ont commencé à en parler, mais ça n'a pas calmé tout ça. Ça n'a rien calmé. Et moi, je pense que le point d'orgue de tout ça, c'est la manif de vendredi dernier, juste avant, enfin, le lendemain du dernier discours du président Ben Ali, enfin, de l'ex-président Ben Ali, où il a dit « Je vous ai compris ».
Oui. Là, franchement…
Je vous laisse deviner la référence. Hein.
Oui. Il a vraiment dit ça ou tu fais…
Il a dit ça deux fois. D'accord. Il a dit « Je vous ai compris, je vous ai compris ».
Ouais, surtout que la référence, il s'y connaît pas bien en histoire parce que c'est justement le genre de référence à plutôt éviter. Parce que le « Je vous ai compris » du général de Gaulle, c'était un peu… Bref.
Ouais, son champ d'ici. Non,
mais le truc, c'est que on raconte dans les coulisses qu'il y a, on va pas le nommer parce qu'on n'est pas sûr, mais un grand publicitaire français qui serait venu l'aider. Bakchich a sorti l'information, je vous laisse chercher. Donc voilà. Donc le lendemain du discours du président, l'UGTT, qui est le principal syndicat d'ouvriers, l'Union générale des travailleurs tunisiens, c'est le syndicat principal, a appelé à une manifestation sur l'avenue Habib Bourguiba pour demander justement, enfin il a appelé à une grève, mais il était clair qu'il allait y avoir une manif. Et c'est grâce à Facebook que vous avez vu ces vidéos-là sur l'avenue Habib Bourguiba, qui est l'avenue sacrée, hein, qui n'a jamais eu de manif là-dedans, c'était impossible de s'en approcher. On a eu une manif d'à peu près 6000 personnes qui sont arrivées dès 9h du matin, qui se sont rassemblés, qui ont forcé le blocus, qui sont allés devant le ministère de l'Intérieur pour demander le départ de l'ex-président. Et ça, si la manif a réussi à rassembler autant de personnes, c'est Facebook, c'est parce que des gens qui n'ont rien à voir avec l'UGTT, qui n'ont rien à voir avec le syndicat, qui ne sont même pas politisés, ont appris qu'il y avait une manif et ils ont appris que ça dit, tiens, c'est, je dirais pas la dernière chance, mais c'est aujourd'hui ou jamais. Et c'est comme ça qu'on a vu une énorme manif se rassembler.
Tu sais, quand tu dis ça, ça me donne un petit peu des frissons à quel point. Enfin, c'est tellement incroyable et émouvant de penser que ce mouvement vient vraiment du peuple et de la rue. Que,
absolument. Ouais. Vous savez qu'il n'y a aucun leader pour cette révolution. Ouais. Il n'y a pas de leader politique. Il n'y en a aucun. C'est le peuple qui a fait cette révolution et Internet lui a permis de s'informer. Entre autres Facebook, parce qu'il n'a accès qu'à Facebook, parce que justement les autres médias sont absents. Par contre, pour Twitter, j'aimerais juste dire un mot, c'est qu'à un moment, il y avait trop de rumeurs sur Facebook, il y avait trop de, disons, trop de n'importe quoi. Mmh. Et les gens se sont rués sur Twitter parce que, en fin de compte, le noyau sur Twitter, c'était des gens assez responsables et qui étaient assez actifs sur le web, c'est des gens qui sont sur Internet depuis toujours, donc ils connaissent très bien les mécanismes de diffusion de l'information et qui ont aidé à la diffuser et sur Twitter et sur Facebook. Donc les gens ont commencé à se ruer sur un site qui s'appelle tnlabs.org, qui est juste un agrégateur de tous les, enfin, de presque tous les comptes des Tunisiens sur Twitter.
D'accord. Et alors justement, comment... Ah pardon, vas-y.
Vas-y. Non mais vas-y.
Comment est-ce que vous faisiez, et vous faites encore aujourd'hui, tous pour trier toutes ces informations qui viennent sur Twitter? Parce que j'imagine qu'il y a quand même énormément, comme tu le disais, de rumeurs et puis de fausses informations. Et peut-être, pourquoi pas, de le gouvernement qui essaye de jeter un petit peu la confusion. Peut-être que ça ne s'est pas produit parce qu'il n'était pas au fait de la chose technologique, mais pour trier les informations et prendre ce qui était à prendre et ne pas prendre le reste.
Il y avait beaucoup d'infos et d'intox. Je dois l'avouer, il y a beaucoup de rumeurs, il y avait beaucoup de fausses informations, mais j'ai eu l'impression que les gens sur Twitter essayaient de vérifier l'information à chaque fois. Ils essayaient de recouper. À chaque fois qu'il y avait une nouvelle information qui tombait, tu avais deux, trois personnes qui disaient, voilà, j'ai vérifié avec tel, 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 j'ai appelé telle personne, j'ai appelé telle personne. Le mouvement s'est organisé comme ça sur Twitter. Par exemple, avant-hier, on avait eu, c'est un truc tout con, sur la première journée, puisque le lendemain, la veille, il y avait l'état de siège, l'état d'urgence, pardon. On avait fait un hashtag ouvert, vous savez, dièse ouvert, et tous les gens qui sortaient dans la rue, ils tweetaient à partir de leur téléphone, toutes les boulangeries ouvertes, toutes les pharmacies ouvertes, tous les endroits où on pouvait se
ravitailler. J'en ai vu passer plusieurs.
Etc. Donc c'est ce genre d'initiative qui a aidé le mouvement et l'information à être de plus en plus crédible sur Twitter, parce que les gens ont fait l'effort d'appeler des proches, des cousins, des amis qui étaient dans d'autres régions, qui étaient dans tels endroits. Si on disait, voilà, il y a tel machin à Sidi Bou Saïd, t'avais des gens qui prenaient le téléphone et qui vérifiaient avec les personnes en place, qui disaient, voilà, oui, c'est vrai, non, c'est pas vrai, etc.
Donc, ouais, j'ai vu plusieurs tweets, effectivement, où les gens, enfin, ils citaient le nom d'un magasin ou d'un supermarché ouvert avec la source, telle personne qui habite en face ou ma cousine qui, ouais.
Voilà, donc ouais, Pierre, on a ici...
On a l'impression aussi, Midi, enfin tu me dis si je me trompe, mais les gens qui sont sur Internet ont de plus en plus l'habitude d'aller vérifier, et il y a un peu une objectivité qui se fait sur la loi du grand nombre, c'est-à-dire les rumeurs fausses, au bout d'un moment, elles se tarissent et les vraies continuent à être relayées, parce que les gens vérifient. Alors je dis pas que tout est protégé, mais la loi du grand nombre avec Facebook, Twitter permet de faire un peu le tri, quoi.
C'est exactement ça. Il y a eu beaucoup de fausses informations ces deux derniers jours, et les gens à un moment voyaient sur leur statut sur Facebook, ils disaient on se calme, tout le monde on se calme, on arrête de propager les rumeurs. Les gens ont commencé à se poser des questions sur les vidéos avant de les partager. Vous savez, il y a des vidéos. Malheureusement, il y a des vidéos qui sont vieilles de 2 ans et que, en coupant un petit peu au milieu, un petit peu avant, un petit peu derrière, à la fin de la vidéo, et ça donnait quelque chose de crédible. Donc, les gens ont commencé à s'informer, à vérifier, à faire des recoupements d'informations, à se poser la question, est-ce que je dois partager ça ou pas? Est-ce que c'est pas faux? Est-ce que ça crée pas la confusion? Donc, il y a une sorte de conscience collective qui s'est créée. Et s'il y a quelque chose que le départ de Ben Ali a réussi à instaurer, c'est une grande première pour la Tunisie, c'est un élan de solidarité énorme. Moi, je suis là en train de vous parler, j'étais dehors à faire des rentes dans le quartier avec mes voisins que je ne connais pas. J'habite dans un quartier où il y a énormément d'immeubles, c'est des gens que je ne connais pas, et pourtant je fais des rondes avec eux. Donc toute la Tunisie est devenue solidaire, on a perdu toutes les notions de régionalisme qui étaient assez présentes, on a perdu toutes les divisions, et c'est devenu un peu plus solidaire, et ça s'est concrétisé sur Internet dans la mesure où les gens ont eu cette conscience de faut pas tromper les gens, faut pas que je relaie une information qui est peut-être fausse, faut qu'on reste unis, parce que nous sommes en train de vivre un moment historique. Pour nous, je peux vous dire que même moi, le fait de vous parler librement aujourd'hui, vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est. Bon, il y a 2 semaines, j'aurais risqué 5 ans de prison pour ça.
Oui. Oui, non,
c'est vrai que...
C'est énorme. Aujourd'hui, tous les Tunisiens qui parlent aux médias étrangers, ce n'est pas évident.
Surtout, on voit que les vieux réflexes reviennent vite, parce que d'après ce que je voyais au journal ce soir, la télé a un peu repris de plus belle ses vieilles habitudes d'être l'organe officiel et qui va pas forcément donner les bonnes infos, etc. Et peut-être que les gens ont compris que c'était Internet maintenant, où il fallait chercher ces infos, quoi.
Ouais, non, mais les gens cherchent leurs infos sur Internet, mais je suis un peu plus modéré sur les médias classiques, parce que moi, je suis conscient qu'on n'efface pas les réflexes de 23 ans de blackout médiatique en 2 heures ou en 48 heures ou même en une semaine. Il faut du temps pour ces gens-là, parce qu'ils ont tellement été formatés pour cacher l'information, pour filtrer, pour censurer. C'est tellement nouveau pour nous. Et les gens aujourd'hui sont un peu, ils sont dans un élan de, ils se disent, ça y est, on a réussi l'impossible, l'incroyable. Je vous dis, il y a 3 semaines, mais personne n'aurait parié un copec sur un départ du président de l'ex-président.
Non, mais même pas il y a 3 semaines. Moi, je vais te dire très, très franchement, quand il a fait son fameux discours, c'était vendredi. Moi, je suis parti à la campagne chez mes parents. Et je me réveille samedi et je vois justement sur Twitter, même pas à la télévision. Enfin, moi, j'ai pas la télé chez moi, mais mes parents l'ont. Même pas à la télé, je vois sur Twitter, Ben Ali a quitté le pays. On sait pas où il est. Peut-être en Sardaigne, peut-être machin. Je me suis demandé si je m'étais pas réveillé dans un univers parallèle.
Par exemple, parmi les trucs qui sont intéressants, lors de son fameux discours du « je vous ai compris », il a annoncé la fin de la censure, 5 minutes après.
Oui, il a libéré les blogueurs qui étaient emprisonnés. Moi, je me suis dit, voilà.
Le truc qui est marrant, c'est que c'est là où j'aimerais vous parler d'un petit détail qui prouve la solidarité de ce peuple. C'est que moi, j'étais chez moi et j'entends tout de suite des klaxons dans la rue, des gens qui sortent des voitures, etc. Il y a plein de gens qui sont sortis dans la rue, qui était étonné de cette masse de bonheur
très louche. D'un coup, comme ça, plein de gens dans la rue, heureux. Et on s'est rendu compte d'un truc tout con, c'est que toutes les voitures qui roulaient, c'était des, on va pas citer la marque, mais c'était des voitures de location. Et du coup, les gens ont commencé à prendre des photos, à prendre des vidéos, à se dire, tiens, c'est bizarre que toutes les voitures qui klaxonnent, qui sortent des drapeaux, ce soient des voitures de location. Mmh. Et au fait, c'était juste un stratagème, c'était préparé. Tout ça a été préparé. Un peu partout dans la Tunisie, des voitures sont sorties klaxonner. Bizarrement, elles étaient toutes des voitures de location. C'était juste des partisans de l'ex-président qui avaient préparé leur coup. Ça peut vous paraître gros, hein, mais c'est exactement ça.
C'est énorme,
mais c'est ça.
Ouais.
C'est grâce à Facebook que les gens se sont rendus compte de ça.
Vas-y Jérôme, et puis après je vais conclure parce que
je pense que nous en France c'est vrai que je pense qu'on ouvre les yeux aussi, parce que même si on avait des infos, moi j'en avais quelques-unes, je pensais pas que c'était à ce point-là en Tunisie, et c'est dommage qu'on l'ait pas su avant. Et je trouve quand même, on est souvent là à flipper pour Facebook, les leaks, les WikiLeaks, les trucs comme ça, ça montre quand même ce genre d'événement que aujourd'hui, Internet acquiert des lettres de noblesse. Il y a eu d'autres évolutions à travers l'histoire où la presse avait pris son rôle, et là, Internet gagne des lettres de noblesse comme un grand média qui permet à des peuples sans leader de gagner de la liberté. Et puis on pense que, enfin, ça risque de s'étendre et que ça devient de plus en plus dur d'être
soyons prudents. La une de je sais plus qui, c'était Libération ou je sais plus qui dit à qui le tour, avec la photo des différents. Oui,
mais c'est justifié. Est-ce que vous savez,
non, c'est sûr.
En Algérie, il y a deux gars qui se sont immolés par le feu. En Mauritanie, il y en a un. C'est pas très beau. Je vous le constate, c'est moche même, les gens qui s'immolent par le feu comme ça. Mais aujourd'hui,
ils doivent se poser des questions.
On se dit, non sans fierté, que peut-être nous, la petite Tunisie, le plus petit pays du Maghreb, à tout point de vue, hein, peut-être qu'on a provoqué un effet de domino qui sera intéressant pour toute la région.
Bah ça, on le surveillera évidemment de très près, sans doute par Twitter et Facebook, dans les jours et les semaines qui viennent. J'aimerais, avant de refermer cette page, poser une question, comme me lancer dans les hyperboles et les grandiloquences. Est-ce que selon toi, hein, vraiment un avis complètement personnel, les événements qui ont eu lieu ces dernières semaines auraient été possibles sans Facebook ?
La réponse n'est pas évidente, parce que Facebook a joué un rôle important en diffusant les vidéos. Mais disons que sans Facebook spécialement, mais sans Internet, on n'aurait pas réussi. Et moi, quand ils n'ont pas coupé Facebook, je me suis dit, ils ont fait une erreur qui va leur être fatale. Parce que, mine de rien, ils se sont dit, tiens, on va pas couper Facebook parce que ça va mettre en colère la population. Mais d'un autre côté, la population, elle se mettait en colère parce qu'elle voyait. Donc oui, Internet aujourd'hui est un média très très fort dans certains pays comme le nôtre, où les médias classiques sont inexistants ou presque.
Ouais. Ok, bon bah écoute Mehdi, merci mille fois d'être venu. Est-ce que tu peux dire aux auditeurs qui nous écoutent où ils peuvent te retrouver sur internet?
Ils peuvent me retrouver sur mon blog pinklemonblog.com.
Donc pinklemonblog.com, ouais. Et bien sûr sur Twitter, tu es Mehdi Lamloum.
Voilà.
C'est ça. Ok, merci beaucoup à toi. Merci à Edia de nous avoir mis en contact. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler bientôt, et que les choses vont continuer à aller dans le très bon sens pour vous en Tunisie. Et on est avec vous au moins dans l'esprit et dans le tweet.
Merci beaucoup.
Merci Mehdi.
Très bonne soirée.
Au revoir. Bon, vraiment, ça fait... Tu sais, ça fait... quelque chose, hein, d'entendre ça.
C'est toujours très émouvant de vivre des événements historiques. Après, il faut du recul. parce que là, on est en plein dedans.
Ouais, c'est
sûr. Parce que pour le peuple tunisien aussi, il faut du recul, parce que les dangers sont loin d'être écartés. Hein. On sait aussi que derrière les révolutions populaires, il peut y avoir de très mauvaises choses, et ça a commencé hein, dans certains coins. Le calme n'est pas revenu. Il faut stabiliser, mais en tout cas, comme on le disait sur Twitter et sur Facebook, on sait qu'on a des no-watchers qui nous regardent et qui nous écoutent en Tunisie, et on est à fond avec eux, quoi. Tout ouais. ce qu'on peut.
Oui, ça fait. Enfin, il faut pas du tout être trop présomptueux, je veux dire que. Mais j'en sais rien. D'une certaine manière, si tu veux, j'ai l'impression que c'est ce média qui appartient à notre génération qui est validé par ce qui se passe là-bas, et ça, je me sens sans doute plus impliqué que si ça avait été. Tu vois, si ça s'était passé autrement. Je sais pas. C'est difficile à exprimer comme sentiment, mais. Peut-être aussi, certains ne le savent peut-être pas. Moi, je suis né au Liban et je suis parti au moment de la guerre. Donc, quelque part, je me sens un petit peu... bon, j'étais tout petit, je m'en souviens même pas. Hein, moi, j'ai grandi en France. Mais je me sens un petit peu affecté d'une certaine manière également par ce genre de choses. Et c'est un ça me... Bon, ça touche évidemment tout le monde, hein, je veux dire. Mais bon, bref, espérons que les choses continuent à bien se passer. Et comme tu le dis, il y a des dangers qui... On l'espère.
Oui, il y a des dangers qui attendent la Tunisie, mais quand même, enfin, je le redis, hein, c'est un peu pompeux, mais c'est vrai que c'est, moi, je trouve que c'est formidable de voir à quel point ça devient dur d'être dictateur dans le monde. moi, j'avais été très marqué à l'époque par ce qui s'était passé en Chine avec la place Tiananmen et tout ça. Mmh. Je me souviens à l'époque, je lisais le magazine Actuel et ils avaient ouvert une radio qu'ils avaient mis sur un bateau qui était au large de la Chine et j'écoutais ça pour avoir des nouvelles en direct. Et je pensais pas vivre aussi rapidement des moyens de communication encore plus efficaces où on voit des vidéos en direct. Après, je parle pas des débordements, c'est vrai que parfois il y a des rumeurs, c'est difficile à suivre.
Bien sûr, bien sûr.
Mais quand même, on peut complètement bypasser, j'emploie un mot anglais puisqu'on est dans le rendez-vous tech, on peut complètement bypasser les médias officiels. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut s'en passer, mais on a une source d'information.
Non, c'est un complément d'information. Oui. Et puis le fait que, on parle évidemment beaucoup de Twitter et de Facebook, mais le fait par exemple que, bon, par Twitter, on a suivi l'actualité, moi en l'occurrence, par Edia, parce que c'est elle que je suis, et ensuite je l'ai contactée, elle m'a donné le nom de Mehdi qui a pu se joindre à nous par Skype et témoigner en direct. Ce type, il est à Tunis et il vit la chose au quotidien depuis des semaines et il le vit encore aujourd'hui. Enfin, c'est quelque chose, je veux dire, on n'aurait pas pu faire ça il y a ne serait-ce que quelques années. On pourrait dire machin, le téléphone, je sais pas quoi, mais vous qui nous entendez aujourd'hui, que ce soit à Tunis ou ailleurs, moi je suis un gars dans mon salon ou devant mon ordi, j'ai un micro à 30 €, une connexion à 3 francs 6 sous, et voilà, et on peut diffuser, enfin bref, bon, c'est, j'enfonce des portes ouvertes, mais ça fait ça
non
fait
non
quelque
non
chose,
mais
quoi.
Attends, même enfin voilà, nous no watch avec nos bureaux qui sont dans ma buanderie avec du linge qui pend, on est là à couvrir des événements en invitant un blogueur en direct. Enfin, c'est une époque formidable par certains aspects.
Ouais,
bon,
ouais.
Toute façon, on va tous disparaître en 2012, mais jusqu'à là, profitons-en.
Bon, et si vous voulez en apprendre un petit peu plus, enfin en apprendre, non, écouter un petit peu plus sur le sujet et sur d'autres sujets, comme je le disais tout à l'heure, j'ai une émission qui s'appelle The Phileas Club, qui est en anglais, mais où j'invite tous les mois des gens de différents pays, que ce soit en Asie, en Amérique, en Europe ou ailleurs, et on discute de l'actualité internationale chaque mois, et évidemment, le mois qui vient, donc à la fin du mois de janvier, on va discuter de la Tunisie. Donc si vous voulez en apprendre, en écouter un petit peu plus, je vous invite à écouter cette émission. Les liens sont sur mon blog, donc patrickbeja.com. Bon, on va refermer donc cette page un petit peu émouvante malgré tout, et on va revenir vers l'actualité tech à laquelle est dédiée cette émission. Et on va parler en premier lieu, assez rapidement, de la question des mandats, toujours à propos de Twitter, des mandats d'arrêt émis à propos de Wikileaks par le gouvernement américain. Vous savez que Wikileaks est la cible d'une procédure légale aux États-Unis, puisqu'ils ont révéler des informations confidentielles. Et le web s'est ému il y a une semaine et demie environ de mandats d'arrêt, enfin pas mandats d'arrêt, excusez-moi, de mandats de perquisition, j'imagine que ça s'appelle comme ça. En tout cas, c'était la demande à Twitter et à d'autres sites web de livrer des informations personnelles comme des messages privés entre différentes personnes et notamment entre Julian Assange, qui est mis en cause dans l'affaire Wikileaks, et des personnes qui lui ont fourni des informations, qui travaillaient avec lui dans le cadre de cette organisation. La plupart des organismes contactés, on pense, ont livré les informations. Twitter a joué un petit peu les rebelles, notamment grâce au conseil légal du responsable de son département légal, qui est un petit peu un rebelle. Je ne me souviens plus de son nom et j'en suis désolé.
Je ne peux pas t'aider là.
En tout cas, ces mandats sont accompagnés d'un gag order, donc d'un ordre d'étouffement, de silence en tout cas. Et le Twitter, c'est-à-dire que normalement les organismes en question ne peuvent même pas en parler. Twitter a dit, bah écoutez, nous on en informe les personnes concernées et on peut pas leur donner de conseils légaux, mais on leur dit qu'ils devraient peut-être contacter telle et telle personne qui leur donneront des conseils légaux. Bref, ils sont allés contre légalement, hein, toujours bien sûr, les mandats, et ils ont été assez félicités par le web. Je suis un petit peu ambivalent sur cette histoire parce que, à partir du moment où les choses sont faites légalement, oui, il faut que ça suive son cours. Et je suis également, bien sûr, je félicite l'action de Twitter qui a été un petit peu trop souvent, finalement, quel que soit le côté duquel on se place, j'ai l'impression que les gens se couche immédiatement sans même discuter la chose. Quand je dis les gens, c'est les sociétés en question, se couche immédiatement sans même discuter la chose. Et je suis content de voir que Twitter a montré une sorte d'autre voie qui était possible, qui était de dire bah écoutez, on va s'assurer que les choses sont vraiment légales. Si on a un recours, on va s'en servir, on va se battre pour nos utilisateurs. Pour moi, ils ont gagné des points dans l'histoire.
Oui, ça c'est clair. En termes de... Enfin... Ouais, je crois que c'est toute une nouvelle génération. On est moins soumis, peut-être. Enfin, on a moins la notion des pays et de l'obéissance. Alors, ça peut engendrer des mauvaises choses, mais en même temps, en termes de liberté et de défendre ce en quoi on croit, on voit des businessmen, puisque Twitter maintenant c'est des businessmen, qui prennent des décisions qui sont courageuses, voire même suicidaires, hein, dans certains cas, hein, parce que
c'est sûr que là, c'était un petit peu.
Ça va pas faire que des heureux. Ouais. Hein, ouais.
C'était pas un doigt d'honneur, mais peut-être un bras d'honneur au gouvernement qui envoyait ses mandats, et c'est un petit peu risqué, on va dire. D'ailleurs, Wikileaks, on n'a pas fini d'entendre parler, comme dit Dylan Protogeek dans la chatroom, il y a un banquier suisse qui veut lâcher des noms de gros évadés fiscaux. Bon, lui, entre parenthèses, il est aussi poursuivi par la loi, il n'a pas une histoire très très nette, mais il y a eu une sorte de conférence de presse improvisée entre lui et Julian Assange, où il donnait symboliquement les CD où étaient ces informations. Et Wikileaks, de manière responsable, et Julian Assange veut vérifier qu'il n'y a pas d'informations trop compromettantes avant de les livrer, mais il va les livrer. Et il y avait une vraie conférence de presse avec tous les photographes qui étaient là pour prendre des photos, etc. etc. C'est impressionnant de voir où est arrivé Wikileaks en quelques mois seulement, mais on en a déjà parlé dans l'émission.
Ça n'est pas fini, hein, cette histoire. Je pense qu'il y en a certains qui doivent bien mouiller le pantalon là, en ce moment. D'avoir
sûr.
Un Wikileaks qui se balade dans la nature et qui est complètement incontrôlable. Il y en a qui ont des années de secrets qu'ils aimeraient bien garder en secret, qui doivent commencer à flipper. Là.
Oui, ça c'est certain. Une autre histoire qui a défrayé la chronique tech ces derniers jours, c'est l'histoire de Google et de Chrome qui ne va plus gérer le H264. Alors c'est un petit peu barbare. Est-ce que tu as entendu parler de l'histoire, Jérôme, ou je te fais un petit topo ?
Oui, okay. Si, non, j'ai quand même entendu. C'est juste que je sais pas quel est le truc qu'ils ont décidé de mettre à la place du H264.
Voilà, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on en avait parlé il y a quelques temps. Google a racheté. je vais recommencer depuis le début pour les gens qui ne comprennent pas. Dans les navigateurs Internet, il y a, pour les navigateurs Internet, il y a un nouveau protocole qui s'appelle le HTML5, qui est la nouvelle version du langage qui, dans lequel on programme les pages web. Et dans ce HTML5, il y a une nouvelle fonctionnalité qui est le tag vidéo, qui permet d'intégrer directement à une page web des vidéos sans avoir besoin d'outils externes comme Flash ou d'autres qui vous permettent de lire vos vidéos. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous installez votre navigateur sans ces outils externes, vous n'allez pas pouvoir voir les vidéos. Il faut un truc en plus. Avec le HTML5, on a la possibilité de lire les vidéos. Sauf que, ça c'est la première étape seulement, il y a une deuxième étape qui est de décider quel format de vidéo va être accepté par les différents navigateurs. Alors, jusqu'à maintenant, le H264 était plus ou moins en train de s'imposer. Il y a quelques mois, Google a racheté un autre format vidéo qui s'appelle le VP8 et il l'a renommé en WebM et ils ont dit « Ce format est entièrement libre de droit et on va le donner au monde pour une utilisation gratuite. » Parce que le H264, même s'il est de très bonne qualité, il y a dans certains cas, pour les professionnels et pour les gens qui encodent les vidéos, une sorte de redevance, des droits à payer à la société qui en est le propriétaire. Donc, Google voit ça, ils disent « ça marche pas très bien, on va donner le VP8, donc le WebM, au monde entier. » Ok, jusque-là, tout va bien. Sauf que Google travaillait beaucoup avec le H264 aussi. YouTube, pardon, est entièrement encodé, ou en tout cas en grande partie encodé aussi en H264. Et Google a annoncé il y a une petite semaine qu'ils allaient entièrement lâcher le H264 pour se concentrer sur le VP8 et que Chrome, donc le navigateur Chrome, n'aurait plus le support en natif du H264. Et ils rejoignent là Firefox, donc Mozilla, dans une politique un petit peu open web, open source, open machin, tout est gratuit, la vie est belle, et ils veulent imposer ce standard. Le problème, alors il y a différentes questions qui se posent à partir de là, c'est que un standard ne s'impose pas en une décision comme ça, et il y a Google Chrome et Firefox d'un côté, mais de l'autre, il y a Safari et Apple surtout, et Microsoft, qui sont entièrement derrière le H264, et qui en plus ont tout un écosystème complexe qui est prévu pour le H264. C'est-à-dire que, je vous explique par exemple, une des conséquences. Si vous avez une vidéo qui est en H264, vous pouvez la lire facilement sur votre iPad ou iPhone. Mais si elle est en VP8, vous n'allez pas pouvoir la lire sur votre iPad ou iPhone en natif. Pour lire cette vidéo en VP8, enfin en WebM, il faut une sorte de traducteur, par exemple Flash. Flash, comme vous le savez, et un truc qui vous permet de... Jérôme, tu as un problème de son, donc débranche, rebranche.
D'accord.
En gros, je résume parce que je m'allonge. Avec cette décision, Google a un petit peu redonné les clés du web à Adobe avec Flash. Parce que de là que Flash était un petit peu en train de prendre le chemin de la sortie parce qu'on n'en avait plus besoin, tout le monde s'était mis d'accord sur un même format. Comme le dit Satanael dans la chatroom, ce format H264 était décodé en matériel par les iPhones, les iPads et bien sûr énormément d'autres appareils. On n'avait pas besoin, enfin ça permettait d'avoir des avantages énormes comme le fait de ne pas consommer beaucoup de batterie, d'avoir un décodage hyper fluide, hyper facile. Alors que là, en revenant vers le Flash, ça va reconsommer beaucoup de batterie, ça va être beaucoup moins fluide, etc. Et d'une certaine manière, en ne se mettant pas d'accord sur les formats, Chrome fait une scission et du coup, on remet Flash sur le devant de la scène et il redevient un petit peu indispensable pour faire la traduction entre les différents formats. En gros, on met Flash, tout marche, ça a des avantages parce que sur les mobiles, bah, bon, ça a les désavantages qu'on sait, on ne va pas en rentrer dans le débat. autre hypocrisie qui a été relevée par excusez-moi. Lena Chou dit, bah, il suffit que ce soit décodé en hard. Si le WebM est décodé en hard, le problème, c'est que il faut que les puces soient fabriquées et prévues pour ça. D'ici à ce que on se mette à fabriquer les puces pour ça, qu'elles soient intégrées dans tous les appareils, que tous les appareils soient vendus, on parle de plusieurs années. Donc, c'est pas un truc qui va se faire en deux secondes. L'autre hypocrisie dont je parlais, c'est Chrome et Google se mettent à dire qu'ils font ça pour le web open et pour machin. Flash est un truc extrêmement propriétaire et pourtant ils l'installent par défaut avec Chrome. Donc ça pose tout un tas de questions sur la légitimité du discours, sur la sincérité du discours, etc., etc. Ouais, j'ai beaucoup parlé, Jérôme.
Bah, je vais en tout cas donner ma conclusion en t'écoutant. Effectivement, les ramifications sont complexes. Je crois que d'abord, faut arrêter de se faire des illusions. Nous ne vivons pas dans le monde des bisounours open space. Quand Google fait un cadeau, c'est parce qu'ils en attendent quelque chose aussi. Tout ça, c'est des jeux de pouvoir. Je crois que personne n'a intérêt à laisser le terrain de jeu. Apple a pris beaucoup de puissance avec la vente de son matériel. Et je pense que dans les batailles de standards, comme il y en a déjà eu en informatique, il est légitime, c'est pour ça que je condamne personne dans l'histoire, de jouer ses pions pour essayer de donner un peu moins de pouvoir aux uns pour pouvoir mieux négocier derrière. Ouais. Je crois
que là, en l'occurrence, ce que beaucoup de gens ont dit, avec raison, c'est que pour YouTube, par exemple, qui demande une capacité de calcul énorme, il est beaucoup plus simple d'encoder les vidéos en un seul format, donc le WebM, plutôt que de les avoir en H264 et en WebM. Évidemment,
oui, mais
c'est quelque chose.
Enfin, pour le web et tout ça, on est encore dans une bataille de standards. Rien ne s'est imposé. Et donc tout le monde. Et je veux dire, Google, c'est gros. Même Adobe est encore gros. Il a encore sa carte à jouer. Qui sait ce qu'ils vont préparer demain. Donc tout ça, c'est des jeux de pouvoir, quoi. On en fait les frais parce qu'on se retrouve avec des trucs incompatibles avec les uns les autres.
C'est ça qui est un petit peu frustrant. On avait l'impression que là, c'était quand même un petit peu réglé, que le H264 avait gagné. Alors oui, il y a eu un danger de monétisation par le MPEG-LA, qui est le consortium qui détient les droits du H264, mais je pense qu'il avait été quand même clairement écarté pour la plupart des gens, pour les consommateurs, en tout cas les consommateurs finaux. Et là, tout à coup, les choses, tout revient en question, et surtout, moi, ce que la leçon que j'en tire, c'est que le MPEG-3, le MP3 que vous utilisez tous pour vos fichiers audio, c'est aussi un format du même type qui a des brevets et qui est la propriété de Fraunhofer. Je crois que je massacre pas le nom. Et ça se passe de la même manière. Donc, je sais pas pourquoi le fait que le enfin, philosophiquement, si tu veux, la démarche de Google est louable. On se dit, on va rester dans l'open et le libre. Ok, pourquoi? Entre parenthèses, le WebM a aussi des questions sur ses brevets qui seraient peut-être pas tous complètement nets. Mais bon, c'est pas encore décidé, c'est pas encore certain. Mais
dans l'Antiquité, il y avait un proverbe, on disait, méfiez-vous des cadeaux.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
beaucoup des Grecs. Moi, je dirais, méfiez-vous des cadeaux de Google. Parce que Google donne, Google prend des trucs open source. Google fait surtout une chose, il casse des marchés potentiels pour pouvoir les dominer. Et je veux pas faire de l'anti-Google, mais quand tu regardes, il s'installe en monopole aussi grâce au gratuit. Parce que derrière, ils savent qu'ils vont vendre des choses. Ouais. Et ça, ça perturbe quand même un peu la marge des choses. Tous ceux qui essayent de vendre quelque chose, même les gens qui ont cette licence H264, peut-être que c'était normal qu'ils se fassent un peu de sous, quoi, avec. Bon, ça, moi, je dis, méfiez-vous des cadeaux de Google.
Jérôme va partir. Jérôme va partir en croisade contre le logiciel libre parce que ça mange l'argent des bons capitalistes.
Ben ouais, mais enfin.
Mais je comprends ce que tu dis. Hein, il y a du vrai. Oui, oui. Mais complètement.
Le commerce, c'est pas non plus une solution à long terme.
Hein. Oui, je comprends. Bon, mais peut-être que grâce à Google, d'ici 5 ans, on aura un format libre et gratuit pour la vidéo et on remerciera nous. Je parle de nous, Jérôme, à No Watch, en tant que producteur vidéo, on sera peut-être bien content de pouvoir produire des vidéos pas chères.
Ouais, mais nous, on fera des vidéos pleines de DRM à 20€ les 2 heures de rendez-vous tech. Ouais,
voilà, ça, c'est le programme pour 2017.
Voilà.
Donc, on va parler de la suite, encore de gros sous, puisque c'est tombé aujourd'hui. Steve Jobs est à nouveau en arrêt maladie. Il n'y a pas énormément de choses à dire. Je ne sais pas si tu as entendu la chose.
Si, j'ai entendu. Je suis encore actionnaire, moi, Apple.
Et ben voilà, donc ça te concerne spécifiquement. Je suivais Cédric Ingrand, notre ami de TF1 News, qui a tweeté la chose. Donc, malheureusement, hein, on lui souhaite bon rétablissement, mais Steve Jobs a demandé un arrêt maladie à son board, qu'il lui a très gentiment accordé. On ne sait pas pourquoi, pour combien de temps, hein, on ne sait pas du tout. Et visiblement, la bourse, ou en tout cas le after hours de la bourse, en a pris note, puisque l'action a chuté d'à peu près 5% en 10 minutes. Je ne sais pas ce qu'elle a fait ensuite.
Attention, elle n'a chuté que sur les bourses européennes, parce que les bourses américaines ne sont pas ouvertes aujourd'hui.
C'est ça, exactement. Donc, mais bon, c'est quand même, je veux dire, 5% en 10 minutes, ça fait mal au portefeuille.
Oui et non. Enfin, en bourse, faut toujours relativiser, vu ce qu'Apple a grimpé. Moi, j'ai les courbes hein, là sous les yeux. Avant qu'Apple revienne au niveau où ils étaient à la dernière fois que Steve Jobs a été annoncé comme mort, parce que ça a été leur plus grosse chute, c'est quand il y a eu la rumeur qu'il était mort. Avant qu'il retombe à ça, il va falloir des nouvelles graves. En plus, j'ai quand même l'impression que au niveau bourse, hein, les gens ont compris qu'Apple, ce n'était pas que Steve Jobs. Ça, c'est le grand public qui croit que si Steve Jobs disparaît, il y aura plus d'Apple. Les investisseurs ont compris qu'Apple avait quand même maintenant les reins un peu plus solides. Et je me demande dans quelle mesure, hein, c'est toujours mes théories du complot et de l'intelligence, Steve Jobs n'a pas décidé justement de temps en temps de lever le pied pour commencer à habituer notamment les investisseurs au fait qu'il ne sera pas là tout le temps. Il sait que sa boîte est très personnellement liée à son nom et à son influence, et il sait, et il a eu 2-3 phrases sur la dernière interview que j'avais vue de lui à la télé américaine sur le fait de la prise de conscience de la maladie,
de sa mortalité,
prendre conscience qu'il allait pas être là tout le temps. Et je pense que son bébé Apple, il veut pas que son bébé disparaisse avec lui, quoi.
Bon, bah écoute, j'espère que c'est plus dans ce sens-là que une vraie rechute, parce que pour ceux qui ne le savent pas, il y en a peut-être qui l'ignorent, mais il a eu une greffe de foie, je vais y arriver. il y a quoi, un an et demi, un an, quelque chose comme ça.
C'était il y a un an, hein, pas plus longtemps que ça. Ouais. Hein, ouais.
Donc effectivement, il est possible. Enfin, il y a un tas de questions qui se posent, on n'a pas encore les réponses.
Il faut juste nuancer une chose quand même. Il a dit qu'il restait CEO même pendant son arrêt maladie, c'est-à-dire il reste sur les grandes décisions, il sera là. C'est au jour le jour qu'il laisse les manettes.
Complètement. Juste un petit mot pour dire que le Mac App Store a été lancé, qu'il a un succès qu'on pouvait attendre. Il fonctionne très très bien. Il y a eu une petite histoire de piratage au début. Je pense que ça va être résolu très très vite. Mais le Mac App Store fonctionne très bien. Tu as eu l'occasion de l'utiliser, toi ?
Ben là, la chatroom, vous pouvez me lancer des tomates. J'ai pas encore eu le temps d'utiliser le Mac App Store. Lancez-moi des tomates, c'est bon, je le mérite.
Hop, splorch. Voilà, c'était une tomate. Bah écoute, on va passer au gros morceau de l'émission, c'est-à-dire le CES de Las Vegas qui a eu lieu ce début d'année. Le CES, comme vous le savez certainement, c'est ce grand salon de l'électronique grand public aux États-Unis qui ouvre l'année chaque année et qui est une sorte de d'immense fête et d'immense, j'ai presque envie de dire cacophonie, parce qu'il y a tellement de monde et c'est tellement énorme qu'on s'entend presque plus penser. Mais il y a quand même eu énormément de grosses annonces et on va vous parler des annonces essentielles. J'en ai retenu quelques-unes. La première, on va presque faire dans l'ordre chronologique, c'est l'annonce du Sandy Bridge, qui est la nouvelle architecture des processeurs d'Intel, qui s'est faite juste avant l'ouverture du CES, et qui est une annonce assez importante parce que c'est la première, c'est l'une des plus grosses évolutions des processeurs de ces dernières années. Il y a énormément de choses qui changent. C'est assez technique, donc je ne vais pas vous ennuyer avec ça, mais simplement pour dire que les nouveaux Core i5, Core i7 et Core i3 auront des capacités qui sont bien au-dessus de l'ancienne génération, et ça va avoir une assez grande influence sur les capacités, en particulier des ordinateurs portables qui vont devenir beaucoup plus puissants et autonomes qu'ils ne l'étaient avant. Et il est possible que Apple intègre cette architecture assez vite dans ses ordinateurs. Une autre nouvelle qui était importante, c'était l'arrivée de Windows 8, donc qui n'est pas encore sorti, hein, ça sera dans peut-être un an et demi, deux ans, sur l'architecture ARM. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? On en a discuté dans
Upload.
Upload. Hein. Je suis un peu fatigué. Tu veux bien prendre le sujet ?
Oui, enfin, je vais te dire plein de bourdes, mais globalement...
C'est justement pour ça que j'ai envie de rigoler
ouais,
un peu.
Ouais, ouais. Rigolons un peu, laissons Jérôme parler de tech. ARM, alors, c'est des Anglais, déjà, il faut le savoir. Donc, on va dire Cocorico Europe.
pas mal récupéré.
Ils font plein de processeurs qui sont vachement bien, qui consomment très très peu et qui sont très très bien pour les mobiles. Mais
en gros, 99% des mobiles de la planète, enfin des smartphones, utilisent des processeurs ARM.
Exactement. Le problème, c'est que ARM, on ne pouvait pas mettre n'importe quel système d'exploitation dessus. Jusque-là, je ne me suis pas trompé, je
crois. Bien, très bien, très bien.
Et Microsoft a annoncé que Windows 8 sera porté et compatible avec les processeurs ARM. Ce que ça veut dire, et c'est là où c'est assez révolutionnaire, déjà, ça fait rentrer un troisième gros acteur dans la course globale du processeur. Et ça, c'est jamais un mal qu'il y ait un troublion qui vienne mettre un peu le trouble. Ça veut dire aussi que ARM a développé ces dernières années des technologies vraiment très basse consommation avec beaucoup de puissance, il n'y a qu'à voir nos smartphones, et qu'on se dit que ça, dans un ordinateur portable, peut-être même voir dans une tour, pour que ça soit des tours basse consommation qui permettraient de multiplier les cœurs pour faire un certain nombre de choses, ça risque d'être pas mal du tout.
Exactement, oui.
Puisque le principal ennemi de l'informatique, c'est la chaleur qui crée la consommation. Si on arrive à diminuer un peu tout ça, on aura moins de ventilos dans la gueule quand on démarre un jeu vidéo.
C'est surtout d'une part pour les ordinateurs statiques, enfin de bureau, mais aussi pour les ordinateurs portables et peut-être même, pourquoi pas, pour les tablettes, parce que on sait que Steve Ballmer, président de Microsoft, annonce en fanfare depuis bien 18 mois que les tablettes sous Windows 7 vont arriver. Mmh. Et systématiquement, elles n'arrivent pas. Pourquoi ? Parce que les tablettes sous ce système d'exploitation, en dehors des questions d'ergonomie, pour faire une tablette sous Windows 7, il faut utiliser un processeur Intel, donc des processeurs qui ne sont pas adaptés vraiment à la mobilité extrême. Et donc, ces tablettes consomment beaucoup trop de batterie, donc elles sont soit trop grosses, soit elles durent une heure et elles s'éteignent, j'exagère, mais à peine. Et donc, ça veut dire que si Windows 8, parce que 7, c'est pas vraiment forcément l'outil idéal, mais si Windows 8 est vraiment prévu dans une version pour les tablettes, et bien là, toutes les composantes sont réunies pour avoir vraiment des tablettes sous Windows qui fonctionnent et qui sont utilisables. Donc c'est vraiment une annonce majeure, majeure.
Non, non, c'est une annonce majeure. Par contre, là, je rejoins complètement Cédric Bonnet. Après, quand on utilise une tablette, on comprend qu'on ne veut pas un système d'exploitation type Windows qui soit 7 ou 8 sur une tablette. C'est pas un hasard si Android développe un système d'exploitation spécifique pour les tablettes. C'est une utilisation spécifique de l'informatique. Moi, personnellement, même si j'étais le premier quand j'ai vu l'iPad arriver et les tablettes à dire « Ah, mais c'est pas des vrais ordinateurs, je vais pas pouvoir faire ce que je fais sur mon portable », aujourd'hui, j'ai pas du tout envie de faire sur une tablette ce que je fais sur mon ordinateur portable. Donc l'intérêt, je sais pas.
Non, mais je pense qu'on est complètement d'accord. Mais il faut pas non plus complètement ignorer la puissance de Microsoft et l'intelligence de Microsoft. Je sais que c'est facile de se moquer de Microsoft qui fait souvent des bourdes, mais il est pas du tout impossible que Windows 8 intègre des...
Attends, je t'interromps. Ouais. Microsoft s'est bien vengé du fait qu'on se fout de sa gueule. Il a sorti le Kinect et il se fout de la gueule de tous ceux qui sont en train de jouer dans leur salon.
Non, mais tu rigoles, mais Kinect est l'un des plus gros succès
je sais.
L'histoire de l'électronique grand public. Donc oui, effectivement,
Un magnifique pied de nez.
Oui, oui, non, c'est sûr, c'est sûr. Et le Windows Phone 7 est une très bonne, un très bon système, même si les ventes sont un petit peu en deçà de ce qu'on espérait. Enfin, et Microsoft en a énormément dans la manche, et Windows 8, il n'est pas du tout impossible qu'ils nous sortent une version pour tablette qui soit vraiment adaptée aux médias. Donc,
Surtout que moi, je trouve que c'est quand même en ringard de se moquer de Microsoft.
Oui,
ça fait
oui.
Ça fait très années 90.
Ça fait très 90s, ouais, complètement, complètement. Et donc on parlait des tablettes et comme promis les tablettes ont envahi le CES et il y en avait de tous les types que ce soit sous Android actuel, sous une nouvelle version Android qui a été montrée en prototype et en vidéo qui est Android donc a priori, on n'est pas très certain des numéros de version mais Android 3.0 qui est vraiment adapté aux tablettes pour le coup et qui est original et intéressant, hein, je pense qu'on est d'accord, c'est vraiment une tablette séduisante, enfin un OS séduisant.
C'était Véronique Abelmont qui s'est aperçue pendant la présentation que en fait c'était une vidéo qui tournait sur la tablette de l'OS.
Oui, complètement, mais bon, c'est une vidéo prototype, hein, c'est pas encore sorti.
Le type faisait les gestes, tu vois, genre regardez, ça marche quand je clique là, il avait dû synchroniser avec la vidéo. C'est ça qui m'a fait marrer.
Oui, ça effectivement, ça fait pas très propre, je te l'accorde.
Ouais.
Mais bon, donc effectivement, il y a eu énormément de tablettes, est-ce qu'il y en a eu une ou deux que tu as retenues spécifiquement?
Je l'ai dit dans Upload, mais c'est vrai que le playbook de RIM sur papier, et t'as fait passer une vidéo cette semaine sur Twitter ou la semaine dernière, je sais plus. Ça a l'air bien sexy quand même. Hein, ouais, ça a l'air bien puissant, bien sexy. Disons que je suis impatient.
Entre parenthèses, RIM qui est le fabricant du BlackBerry. Donc là aussi, on a tendance à en rire beaucoup, mais.
Ouais, bah quand on voit le nombre d'utilisateurs, on rigole moins. C'est là où parfois nous on est un petit peu dans notre cocon geek égocentré. Il faut voir qu'il y a d'autres marchés de l'électronique et de la tech que le marché des geeks.
C'est sûr.
Et sinon, j'aimais bien l'idée là de c'est chez Motorola. Je me souviens plus le modèle. Ce
le
téléphone.
Atrix 4G.
Voilà. Qui se clipse. Alors ils n'ont rien inventé, hein. Les docks c'est aussi vieux que l'informatique portable, mais j'aime bien l'idée parce que souvent je me suis dit, tu vois, il m'est arrivé souvent.
Explique de quoi il s'agit parce que.
Alors oui, pardon. En fait, vous pouvez prendre votre smartphone et.
On en a parlé dans Upload, donc
Mais tout le monde écoute Upload, Patrick. Les gens qui écoutent Tech. Écoute forcément Upload.
Bah disons que si vous avez un téléphone portable, je sais pas, et que vous n'écoutez pas Upload, je sais pas pourquoi c'est la situation est comme ça, hein.
Oui, non, c'est absolument pas normal. Absolument pas normal de ne pas écouter Upload. Là, en fait, c'est de prendre au pied de la lettre le fait que nos smartphones sont des ordinateurs. C'est-à-dire, pour faire vraiment très simple, si vous clipsez votre téléphone derrière un espèce de module qui va le transformer en petit ordinateur, tout ce qui est processeur,
en fait,
mémoire,
le module,
et tout ça, c'est votre téléphone.
Le module, c'est simplement un clavier et un écran. Un clavier et un écran tout bête, quoi.
Donc oui, c'est un dock. C'est un dock, mais qui transforme vraiment ton smartphone en ordinateur portable. Mmh. Et c'est vrai, quand on voit la puissance des téléphones aujourd'hui, enfin des smartphones, tu te dis bah c'était pas con, il fallait le faire. Après, il faut tester le truc, hein. Je dis pas, mais
oui.
Ouais.
Mais non, mais ça peut donner. C'est un concept qui m'intéresse pas mal. Ouais.
Mais tu sais que moi, à une époque avec mes grandes prévisions où je me gourre toujours, je soutenais qu'Apple allait sortir non pas une tablette, mais en fait c'est une tablette dans laquelle l'iPhone allait se clipser.
Oui. Bah, c'est.
Et on n'en est pas loin. On pourrait presque.
Ouais. C'est possible, c'est possible.
Ça m'éviterait de synchroniser trois fois mes adresses.
Exactement. Enfin, voilà. Tu sais que quand tu es simplement synchronisé sur Gmail avec tous tes appareils, elles se synchronisent toutes seules et en live.
Oui, non, mais je parlais des adresses. Je voulais dire les photos. En fait, le plus possible pour moi en ce moment, vu que je fais beaucoup de photos, c'est la synchronisation des photos parce qu'elles restent manuelles. Et il faut brancher ces devices.
Et je te rejoins complètement. Je parlais de la maison de campagne de mes parents tout à l'heure, enfin de la maison de mes parents. À côté de Chartres, d'ailleurs, entre parenthèses, tiens, je fais une toute petite parenthèse. Ceux qui me suivent sur Twitter ou sur Instagram ont vu que j'étais à Chartres ce week-end. Je suis tombé complètement amoureux de cette ville. C'est magnifique. Donc, les Chartrois, Chartrains, je ne sais pas.
Mais c'est pas les Chartreux, en tout cas, c'est autre chose.
C'est clair. Mais big up à Chartres, yo-yo, 2-8, forever.
Wesh, wesh.
Wesh. Non, vraiment, c'est magnifique. Donc, bref, j'étais là-bas et j'avais des photos sur mon iPhone et je voulais les mettre sur leur super télé Bravia machin poète-poète avec port USB truc. Et ben, impossible de sortir les photos de mon iPhone parce qu'elle était pas il est pas synchronisé avec mon ordi portable que j'avais là-bas. Donc, j'ai été obligé de me connecter sur le même réseau Wi-Fi, d'utiliser CC qui est devenu iPhotos qui vous permet de downloader les photos directement depuis l'iPhone quand vous êtes connecté sur le même réseau Wi-Fi, de les downloader, de les coller sur une clé USB, de les mettre dans la télé. Enfin, ouais, c'est l'horreur. Barbare. Alors que, enfin bon, bref.
T'as un début de solution. T'as un début de solution avec MobileMe, mais c'est payant.
Oui, mais c'est pénible aussi.
C'est pénible aussi, hein, franchement.
Bref, donc, effectivement, il y avait des idées intéressantes à ce CES. Au niveau des tablettes, je dirais quand même, ça reste un petit peu confus et il y a énormément de vaporware, donc de rumeurs, enfin de trucs qui ne sont pas encore vraiment sur le marché. Donc, il faut attendre de voir quand même, il faut rester un petit peu prudent. Il y en a qui arriveront, mais.
C'est la preuve que la volonté est aux tablettes, ça c'est clair. Aujourd'hui, on n'a pas eu la démo flagrante ou le truc qui te fait dire « Ok, l'iPad 2, je regarde même pas, c'est ça que je veux. » quoi. Ouais. En tout cas, moi, ça m'a pas encore... Après, je m'en fous d'avoir un iPad ou un iTruc où je veux une bonne tablette. Mais pour l'instant, à part le Playbook que j'ai vraiment, vraiment envie d'essayer, il n'y a rien qui m'a soufflé, quoi.
D'accord. Petite parenthèse, tu as mentionné le nom de l'iPad 2. On va faire un petit très rapide résumé des rumeurs qui sont... on aura certainement la réponse d'ici la fin du mois avec une conférence Apple qui annoncera l'iPad 2. Mais les rumeurs en ce moment, c'est résolution d'écran doublée, ce qui serait cohérent. C'est pas tout à fait la densité de l'écran Retina, mais vu que la distance est un petit peu plus loin, a priori, ça serait une résolution qui est presque suffisante pour avoir une correspondance avec celle de l'œil humain. Bref, résolution doublée. Sans doute, caméra à l'avant, à l'arrière, ça, on comprend bien. Peut-être port pour carte SD pour importer les photos sans avoir besoin du petit dongle, possible. C'est pas complètement impossible.
C'est pas impossible et ça serait pas complètement con.
Ouais. Et il y a aussi des rumeurs d'un port USB. Ça, j'y crois un petit peu moins.
Ouais, ça me surprendrait. Ou alors ils vont faire un port USB mais compatible uniquement avec Apple.
C'est possible. Les histoires de synchronisation avec les autres appareils par le cloud, avec MobileMe, possible aussi, mais bon, on n'est pas encore certain.
Ça, en tout cas, c'est l'évolution, s'ils la font pas, pour moi, c'est l'évolution naturelle et l'évolution que j'attends le plus. Bah,
ça, c'est un petit peu pour quand ça va arriver plutôt que si ça va arriver. Si c'est pas maintenant, ça sera la prochaine version ou avec l'iPhone. Un autre truc intéressant, peut-être pas pour tout de suite non plus, mais l'OS 4.3 a énormément de manipulations avec genre 4 doigts ou 5 doigts pour revenir à l'écran d'accueil, etc., qui pourrait laisser penser que dans une version à venir, l'iPad pourrait perdre son bouton Home. Possible. ça pourrait arriver.
Ça a l'air d'être la tendance, plus de boutons du tout.
Bah, il y avait deux ou trois tablettes. Voilà, exactement. Il y avait deux ou trois tablettes au CES qui n'avaient aucun bouton et qui fonctionnaient très bien avec des manipulations assez intelligentes.
Et ça, Steve Jobs, si on fait un truc encore plus dépouillé que lui, ça doit le rendre malade. Et voilà, on a l'explication de l'absence de Steve Jobs. Il a des boutons, en fait.
On va conclure donc pour ces nouvelles du CES avec deux autres informations un petit peu...
Attends, Patrick, juste quand même, l'iPad 2, t'as pas donné l'information essentielle. On va enfin pouvoir rebloquer l'iPad 2 avec le bouton qu'ils ont de... Tu sais, le bouton sur le côté.
Oui, l'orientation avec le petit switch sur le côté.
L'orientation, ah bah ouais, mais moi j'attendais ça comme...
C'est même pas l'iPad 2, comme je le disais, c'est l'OS 4.3 qui sera actif sur ton iPad 1. Donc, tu pourras l'avoir. Est-ce que tu vas revendre ton iPad 1 pour t'acheter un iPad 2 ?
J'attends de voir. Je suis très content de mon iPad 1. Et puis, tu sais, je suis plus à courir après les dernières nouveautés. Donc, je serai circonspect.
Moi, j'aurais tendance à dire ça, mais...
Mais tu sais que...
Ouais. Mais il y a énormément de tablettes. Si elles sortent, si je peux en avoir une dans mes mains, franchement, il y en a qui me plaisent beaucoup, quoi. Et il n'est pas exclu que je dise au revoir à mon iPad, potentiellement.
Comme j'ai dit tout à l'heure, moi, je veux une bonne tablette. Après, je m'en fous de la marque. Hein.
On est d'accord.
Si ça fait tout ce que ça fait et des trucs en mieux... Après, c'est vrai que comme on présente Upload, moi, je suis un peu plus sensible aux innovations que je ne le serais si j'avais un autre métier. Enfin, ou si je faisais autre chose, qui nous rend peut-être un peu plus excités par les nouveautés. Mais
Sûr. Et puis donc, les deux dernières infos au niveau matériel et processeur, c'est un accord entre Intel et Nvidia qui fait en fait suite à un procès qui a duré très longtemps pour des histoires de brevets que Intel aurait utilisé à l'insu du plein gré de Nvidia. Un accord pour 1,6 milliard de dollars sur 6 ans qui est un accord de licence croisée pour différents brevets qui vont faire que Intel aura des capacités a priori en processeur graphique beaucoup plus développées puisque Nvidia, c'est leur spécialité. Et de l'autre côté, Nvidia pourra également profiter de certains brevets d'Intel. Et entre parenthèses, tu parlais de ARM et de leur capacité à faire des ordinateurs de bureau. Nvidia risque fort de... c'est pas qu'ils risquent fort, c'est qu'ils ont prévu d'utiliser des processeurs ARM pour établir des PC de bureau. Donc, il est possible qu'on voit des ordinateurs de bureau d'ici un ou deux ans, d'un côté Intel, de l'autre côté AMD et du troisième côté Nvidia/ARM qui sortirait aussi des machines. Et ça fait de la concurrence, donc ça sera bon pour tout le monde parce que, en plus, AMD qui a racheté ATI, ils ont toutes les pièces du puzzle. Intel se met à bien gérer les choses au niveau graphique et évidemment ils sont très très bons au niveau processeur tout court, donc ils ont toutes les pièces du puzzle. Nvidia gère très bien les choses au niveau graphique et avec les capacités des processeurs ARM va aussi avoir des capacités de processeurs classiques. Ça fait trois ensembles viables qui risquent de se mener la vie dure dans les années à venir.
Moi, je vais paraître con en disant ça, mais je suis plutôt content qu'un Européen rentre dans la course, quoi.
Oui.
Dans un monde de la
Nvidia,
micro-informatique largement... Non, mais ARM,
tu veux dire ARM, oui,
c'est des Anglais. C'est des Anglais et ça, c'est bien, quoi. Ouais. Alors, est-ce que les Anglais sont des Européens ? Nous laisserons ce débat au Phileas Club.
Débat intéressant, s'il en est.
Oui.
Écoutez, je crois qu'on a passé, on est arrivé au bout des grosses infos de cette émission. On va passer à des infos un petit peu plus rapides, mais importantes tout de même, avec une première information beaucoup plus franco-française, enfin franco-asiatique, qui est un combat entre Mega Upload et Orange. Alors vous le savez, Mega Upload, c'est ce site de streaming et de téléchargement, cet ensemble de sites de streaming et de téléchargement, très très populaire, surtout depuis qu'une certaine loi Adopi est venue mettre un petit peu, semer le trouble dans les habitudes de téléchargement des internautes français. Il se trouve que ces gens-là se plaignent depuis longtemps du fait que Orange bride les débits vers leur service. ou en tout cas ne veulent pas débourser l'argent nécessaire pour avoir des débits corrects avec les gros tuyaux qu'ils utilisent. Et ils ont mis en ligne une sorte de bandeau d'avertissement pour dire aux gens directement qui allaient sur leur site attention, si vos téléchargements sont trop lents ou que votre vidéo n'est pas bien streamée, c'est probablement à cause du fait que votre fournisseur d'accès restreint intentionnellement votre accès aux parties d'Internet qu'il n'aime pas. Et ils citent Orange nommément et ils expliquent la situation avec les fournisseurs qui s'appellent Cogent et il y en a d'autres qui leur fournissent leurs services. Et ils disent, si jamais vous avez ces problèmes-là, essayez de vous rediriger vers un autre fournisseur d'accès qui ont une excellente connectivité sur toutes les parties du web, comme SFR ou Free. Et n'hésitez pas à appeler Orange, votre fournisseur d'accès, pour leur dire, moi je me barre parce que vous n'avez pas les accès qu'il me faut. Évidemment, Orange a dit non, non, mais vous vous foutez de notre gueule, pas du tout, nous sommes dénigrés. En fait, c'est Cogent, les autres qui veulent pas faire ceci et cela. Cogent qui revient dans la bataille en disant non, non, mais effectivement, Orange, ils veulent pas acheter plus de débit chez nous, donc forcément, ils ont pas accès à tout Internet. C'est ce qu'il en ressort, c'est que c'est assez intéressant de voir comme Mega Upload prend à témoin ses utilisateurs pour les engager, les encourager à bouger contre Orange. C'est une méthode directe et radicale et plutôt intéressante.
Ouais, c'est très inquiétant, moi, je trouve, ces histoires-là. Nous, on est, les gens le savent, hein, NoWatch, si un jour on se prend de grippe avec... Parce que Orange produit du contenu aussi. Si un jour ça leur plaît pas le contenu qu'on produit, bah tous les gens qui seront sur Orange et pourront pas regarder du NoWatch, ça me plaît pas, ces histoires.
On est d'accord. D'où l'importance de la neutralité du net.
Exactement.
C'est pas exactement le même débat, mais on le rejoint un petit peu si effectivement il y a un blocage volontaire d'Orange, ce qui n'est pas encore complètement avéré. Mais effectivement, c'est quelque chose d'important. Autre news franco-française, c'est l'OPCI 2, donc la fameuse loi qui a été votée il y a... Enfin, elle est en cours de validation, on va dire, et de vote final ces jours-ci et ces semaines-ci. Et je voulais en parler juste rapidement parce qu'elle fait énormément de bruit sur Internet en ce moment. Corben en a beaucoup parlé, sur Twitter on en a beaucoup parlé. Et moi je voulais juste préciser qu'il y a deux parties essentielles, enfin deux parties importantes de la loi LOPCI qui sont à mon sens un petit peu mélangées et on a tendance à jeter tout ensemble en disant voilà, c'est le gouvernement Sarko et c'est n'importe quoi du début à la fin. Pour moi, il y a une partie cohérente et une partie inquiétante. La partie inquiétante, c'est le fait que sous prétexte de vouloir bloquer, comme toujours, hein, on parle de la pédophilie ou de sites de ce type que j'ai jamais vu nulle part. Mais bon, c'est l'éventail qu'on agite pour dire il faut pouvoir bloquer n'importe quel site sur Internet. Et une partie de
c'est l'épouvantail, hein, pas l'éventail qu'on agite.
Pardon. Non, mais l'éventail aussi, on l'agite quand il fait chaud avec des processeurs trop
oui,
puissants.
Oui, c'est vrai.
Oui, donc l'épouvantail, pardon. Donc, l'épouvantail qu'on agite, et donc cette loi permettrait, visiblement, je ne l'ai pas lu précisément, mais c'est ce que tout le monde dit, permettrait de faire bloquer n'importe quel site au niveau national, de le mettre sur une liste noire, et qu'aucun fournisseur d'accès ne pourrait permettre l'accès à ce site-là. Ce qui est horriblement inquiétant, parce que non seulement c'est déjà inquiétant à la base qu'on puisse, sans l'implication d'un juge, faire bloquer un site juste parce que voilà, quelqu'un a décidé qu'il ne l'aimait pas, mais en plus, c'est évidemment très inquiétant parce que ça commence avec un site effectivement nuisible, comme par exemple quelque chose de la pédophilie ou du snuff ou Dieu sait quoi, mais on peut très très bien imaginer une dérive hyper facile du genre voilà, il y a quelque chose qui est politiquement incorrect, que ce soit est-ce que je sais moi, des opinions, bon peut-être pas des opinions politiques déviantes, mais là, on va décider que ce site-là fait du piratage, donc ben, on va le fermer aussi. Et puis, ce n'est pas exactement le sujet de la loi, mais la dérive est très facilement arrivée. Donc, sur cette partie, moi, je rejoins mes camarades blogueurs et je suis assez d'accord. Par contre, là où je suis moins d'accord, c'est qu'ils ont tendance à condamner en même temps comme état policier le fait de pouvoir, entre guillemets, mettre sur écoute les emails ou les communications par Internet de certaines personnes. Et là, je ne rejoins pas les gens parce que si c'est véritablement, on en avait parlé à l'époque, mais si c'est véritablement quelque chose qui est suivi par un processus législatif valide, eh ben, il faudrait qu'on puisse mettre sur écoute, entre guillemets, les gens, les emails ou les communications Internet de gens qui contreviennent à la loi, de la même manière qu'on peut mettre sur écoute un téléphone. Ça n'étonne personne qu'on mette quelqu'un sur écoute sur son téléphone. Je vois pas pourquoi le fait que... Enfin, c'est complètement ne pas être en phase avec la réalité du présent, de la technologie d'aujourd'hui, de se dire on peut mettre quelqu'un sur écoute sur son téléphone, mais s'il envoie un email, on n'a pas le droit de lire ce qu'il dit. Donc voilà, c'est une petite distinction que je voulais faire qui me paraît quand même importante, parce que les gens ont tendance à s'emballer avec l'antilopsie et à tout mettre dans le même sac, ce qui, à mon sens, n'est pas très constructif.
Non, il faut des bêtises ou... faut pas perdre. Non, il faut pas perdre le sens commun. Moi, je suis d'accord avec les deux réflexions que tu fais. Je pense que trop souvent, on vit dans l'illusion qu'on est dans des gouvernements stables, mais on le voit avec ce qui arrive en Tunisie. On revient au début de l'émission, mais il faut pas être prétentieux avec l'histoire. Hein. La France, l'Europe, c'est très bien des pays qui peuvent devenir instables et qu'on ait des politiques.
Oui, enfin, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Demain, il peut y avoir un dictateur qui arrive et qui serve de la loi Lopsi pour faire...
Oui, mais c'est toujours le problème des lois, c'est leur rétroactivité, une fois qu'elles sont en place, les habitudes qui peuvent être prises, quoi.
Il faut
toujours être prudent. Mais je suis d'accord aussi avec ton objection qui est, on doit pouvoir écouter les gens qui sont des menaces pour nos pays ou... Voilà, comment voulez-vous que James Bond travaille s'il peut pas écouter les emails maintenant? Hein, franchement.
Et c'était exactement ce que je disais. Merci de l'avoir mis dans des termes que tout le monde peut comprendre. autre nouvelle plutôt marrante pour la fin du monde par ordinateur assisté. Watson, l'ordinateur d'IBM qui joue au Jeopardy, a réussi à gagner son match préliminaire contre deux champions du Jeopardy. Et c'est de la même manière que Big Blue, qui jouait aux échecs contre Kasparov, avait fini par gagner. Et ben là, Watson a joué de manière complètement transparente au Jeopardy. Il a compris les questions, enfin plutôt les réponses, et il a gagné contre des champions du Jeopardy. C'est pas le vrai match qui aura lieu dans quelques semaines ou quelques mois, mais dans ce match préliminaire, il a déjà gagné. C'est invraisemblable quand même. C'est une machine d'IBM qui a fait ça.
Ouais, non, moi, je serais impressionné le jour où il y aura un ordinateur qui participera à la Star Academy. Là, ça prouvera la supériorité à l'homme.
On voit que tes références sont d'une qualité bien plus grande que les miennes.
Non, mais attends, quand même, petite question, parce que j'y connais rien. Finalement, Jeopardy, c'est une grosse base de données.
Donc bah non, pas vraiment, ça. Il faut que tu comprennes. Je vais peut-être dire une connerie, mais Jeopardy, on te donne une réponse et il faut que tu comprennes la question. Donc, quel est le meilleur réseau de... je te dis, je suis nowatch.net. Oui, la question, c'est...
Je suis un réseau français de podcasts.
Voilà, exactement.
Mais c'est de la base de données inversée. Enfin, le réponses que tu peux avoir. Donc,
mais si tu veux, je pense que...
Il a toujours réussi à le faire mieux que les hommes.
Non, mais je pense qu'il comprend la question. Enfin, qu'il comprend la réponse. Il analyse la réponse. C'est pas juste qu'il a une base de données de 70 trilliards de réponses avec toutes les questions qui correspondent. Ouais. Alors, sinon, c'est pas
pour l'instant,
jeu.
À chaque fois qu'on m'a expliqué l'intelligence artificielle, finalement, ça revenait quand même à des calculs hyper rapides de base de données. Quoi.
Ah bien sûr, mais là, c'est, enfin, bon, tu sais, même un truc comme Kinect qui détecte les mouvements, c'est du calcul hyper rapide de base de données, c'est ce que fait un ordinateur.
Oui. Donc pour l'instant, je suis impressionné parce qu'ils sortent des machines avec des puissances de calcul.
Mais tu sais, j'irai même plus loin. Il n'est pas du tout impossible que ton cerveau qui fonctionne actuellement plutôt correctement, ça soit également un système de calcul de base de données non binaire et très complexe,
oui,
mais quand même.
Mais il y a un truc qui change tout dans le cerveau humain. J'ai vu un truc sur les échecs et les cerveaux, les ordinateurs qui jouent aux échecs. Nous, on a un truc, c'est l'intuition. Et ça, pour l'instant, les ordinateurs...
Mais
non,
mais bien sûr, je suis pas en train de dire que les ordinateurs sont des... Bon, bref.
Bon, bref.
Partons. C'est un autre débat qu'on aura peut-être un autre jour sur Upload, par exemple. Ouais. Donc, autre nouvelle plutôt sympa, c'est le nouveau Microsoft Surface. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais il est super beau. Beaucoup moins cher, il coûte seulement 6 600 $, je crois. Ce qui est la moitié du prix qu'il coûtait avant. Et surtout... Il est hyper fin, c'est-à-dire, enfin hyper fin, c'est pas une tablette, mais c'est une vraie table. Là où c'était l'ancien était une sorte de bloc, de coffre hyper gros, le Surface, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est cette table tactile de Microsoft qui est sortie avant même l'iPhone. Quelques mois avant, ils l'avaient présenté, et c'est un écran immense sur lequel on peut faire plein de choses, et c'est une table. Et la nouvelle version est moins chère, beaucoup plus plate, c'est une vraie table qui ressemble à une table, qui n'est pas un énorme bloc, et qui est super bien faite, encore plus réactive, etc. Moi, j'ai trouvé que c'était un bon nouveau prototype, même pas un prototype, elle est en vente, hein, mais une bonne machine de Microsoft.
Ouais, à 6 000 €, je vais attendre encore un peu, hein, je passe.
Bon, c'est pas pour tout... Non, mais pour les commerces, pour les...
Oui, oui, pour les commerces, non, par contre, de toute façon, c'était à ça que c'était destiné, Surface. Hein,
tout à fait.
C'est... Ouais.
Groupon s'est fendu du communiqué de presse le plus drôle que j'ai lu depuis longtemps pour annoncer qu'ils avaient levé environ 950 millions de dollars. On parlait de Groupon il y a un mois, enfin quelques semaines, référez-vous aux épisodes suivants si vous ne connaissez pas l'histoire, mais... Deux phrases que je retiens, assez intraduisibles. Le titre du communiqué de presse, c'est « Groupon raises like $1 billion ». Pour traduire, c'est « Ouais, Groupon a levé genre $1 milliard », quoi. Mais vraiment, ça, c'est le titre du communiqué de presse. Et ils disent aussi, à un moment, vous savez, les communiqués de presse, c'est toujours des trucs un petit peu pompeux où on se fait mousser. Ils disent, l'année dernière, Groupon a été nommé la société à la croissance la plus rapide au monde par Forbes Magazine et le meilleur site du web par l'une des publicités du groupe de Groupon. C'est fort, non ? Mettre ça dans un communiqué de presse quand tu lèves $1 milliard, enfin, je sais pas, moi, ça m'avait fait...
Je sais que le sujet était abordé par le web et démenti par certains, le web 2010. Moi, je trouve quand même que tout ça commence à sentir la bulle spéculative. Ça sera peut-être pas la même que dans les années 2000, mais ça sent un peu le tout et n'importe quoi.
Bah, écoute, Groupon a effectivement une croissance monumentale, mais bon. À côté de ça, MySpace est ramené aux dures réalités de la vie en licenciant environ 600 personnes, ce qui représente 50% de leur staff, et News Corp est en train de parler du fait de revendre MySpace. C'est une déchéance effroyable pour ce pauvre site qui aurait pu faire quelque chose, qui aurait pu se réinventer, mais qui a vraiment été sclérosé.
Quelle absence de réactivité. Alors, je sais qu'ils changeaient de patron tous les 15 jours, mais ils avaient le temps quand même de réagir. Hein.
Mais tu sais, ça semble être... Enfin, je suis sûr qu'il y en a et que je ne les vois pas, mais j'ai l'impression que... toutes les sociétés qui ont été rachetées par des grands groupes se sont sclérosées et n'ont pas réussi à évoluer quand ils auraient dû. Enfin, là, vraiment, j'ai du mal à penser à une société qui a, au mieux, rien ne se passe. Et Skype, qui avait été racheté par eBay, n'a rien fait pendant des années. Il a fallu qu'ils soient revendus à leurs anciens propriétaires pour qu'ils commencent à évoluer. MySpace, j'en parle même pas. Il y a énormément d'exemples de trucs vendus à AOL, à Microsoft, même à Google, genre Feedburner et des trucs comme ça, ils sont plus ou moins à un niveau stable. Flickr, qui est chez Yahoo maintenant, marche très très bien, mais ils n'ont pas évolué ou presque pas évolué depuis des années. Enfin, Cédric donne l'exemple de YouTube. Effectivement, Google a quand même bien géré YouTube, mais sans non plus en faire quelque chose. Enfin, je sais pas, YouTube, ils auraient pu monétiser l'aspect streaming de films. Il y a un magasin de location sur YouTube, mais enfin, personne n'en a jamais entendu parler. Ils ont vendu 48 vidéos en Angleterre sur l'année. Jérôme, tu silonnes. Tu silonnes.
Ah, ok.
Encore, c'est trop long, notre émission. Android, oui, il a évolué, mais Android, c'est un truc qu'ils ont racheté parce qu'ils avaient besoin d'une certaine technologie. Lionel G nous parle d'Android, mais...
Mais je pense que tout ça, dis donc, on est en train de faire l'apéro du rendez-vous tech, l'émission de 2 heures.
on arrive à la fin, là.
On arrive à la fin. Je pense que tout ça, c'est des achats stratégiques pour ces gros groupes. Donc, pour eux, c'est pas très important d'en faire quelque chose, quoi. C'est juste se placer. Alors, c'est dommage. Il y avait un article très intéressant. Alors, désolé de parler d'Instagram, même dans le rendez-vous tech, mais je vais pas du tout parler d'Instagram. Juste que, il y avait un article qui disait pourquoi Instagram n'aurait pas pu naître chez Google. C'est vrai que les sociétés ont un dynamisme au début, après, ils atteignent une masse critique, ils sont revendus, et la capacité d'innovation et de changer d'idée, parce que l'histoire d'Instagram, elle est intéressante, ça devait pas du tout être ça au départ. Puis ils ont changé de fusil d'épaule au dernier moment.
Mais c'est le cas de Twitter aussi, hein, qui a été...
Twitter, c'était pas son business model au départ. Et cette capacité à se, tu vois, en 15 jours, à changer complètement son business plan et son site internet et tout ça, faut être une petite boîte pour le faire, quoi.
Ouais. Deux dernières nouvelles. L'influence de Free se fait encore sentir dans le domaine des fournisseurs d'accès avec SFR qui rend les appels vers les mobiles gratuits à partir de très bientôt, si ce n'est déjà le cas, pour sa SFR Box. Je ne sais pas si la 9 Box est concernée aussi. Elle appartient au même groupe, si je ne m'abuse. Mais donc les appels vers les mobiles, comme avec la Freebox Revolution. On s'en doutait, hein, c'est l'influence de Free se fait sentir et c'est pour le bien des consommateurs.
Ah ouais, là ils ont la pétoche, hein, on sent. Hein.
Ouais, ouais, un petit peu, ouais. Et dernière chose, bon, deux choses. Facebook Phone, un téléphone Facebook qui commence à refaire parler de lui, même si Facebook l'avait nié fort et haut et fort pendant il y a quelques temps quand la rumeur était arrivée. Et dernière chose, l'iPhone est disponible chez Verizon aux États-Unis, ce qui veut dire, enfin, on le sait pas forcément, mais aux États-Unis, il était disponible que chez un opérateur, l'iPhone. Aujourd'hui, il est disponible chez deux opérateurs et c'est peut-être la porte ouverte à la disponibilité universelle aux US, ce qui change un petit peu la donne dans le marché des téléphones mobiles aux US. Ça va être intéressant de suivre comment ça évolue.
Est-ce que tu crois que le Facebook Phone, il y aura un espèce de module de POC qui viendra poquer la joue?
Ça serait pas mal. Ah oui, dernière chose, toute dernière vraiment, il y a plusieurs médias américains, plusieurs groupes de presse américains qui se sont réunis pour créer un kiosque pour les tablettes, donc pour unir leurs forces et avoir un vrai kiosque pour vendre leurs magazines sur les différentes tablettes. Et entre parenthèses, sur iPad et iPhone, les choses ont l'air de se compliquer un petit peu pour Rupert Murdoch qui veut sortir son The Daily, dont on avait déjà parlé, et parce que visiblement le modèle d'abonnement sur iPhone n'est pas encore prêt, donc ils ont été obligés de décaler un petit peu l'annonce. Et effectivement, ce modèle d'abonnement, à mon sens, va être la prochaine grosse évolution sur iPhone, parce que c'est quelque chose qui manque cruellement. J'en avais déjà parlé il y a, je sais pas, peut-être 6 mois, et évidemment c'est quelque chose de très important qui risque de venir changer la donne. Et Apple le sait bien, puisqu'ils ont commencé à dire aux différents éditeurs qu'ils ne devaient plus offrir des abonnements gratuits aux gens qui utilisent leur iPhone, qui utilisent leur journal ou leur magazine sur iPhone ou iPad. Donc ils veulent faire passer tout ça par le système Apple, ce qui est, à mon avis, surtout pour s'empocher les 30%, mais bon, ça facilitera peut-être un petit peu aussi les processus. On verra ce que ça donne dans les semaines à venir.
Tout à fait.
Mais écoute, ça y est, on arrive. Ouf, on est quand même à 1h30. Hey,
il était costaud, hein, celui-là.
Oui, bah 1h30, c'est... Bon, on a fait plus long, ouais, hein, parfois. Ouais, ouais. Donc, bah, écoute, dis-nous donc où on peut te retrouver sur l'Internet.
Moi, on s'en fout, mais par contre, je vais en profiter pour donner une nouvelle super importante, puisqu'elles viennent de tomber sur les téléscripteurs, enfin sur Twitter ce soir, que No Watch a sa propre page iTunes.
Oh, c'est vrai, c'est vrai.
Et ouais, on a une page à nous. Alors, allez la découvrir. Ça, on est super fiers parce que c'est quelque chose qu'on voulait depuis longtemps et qui est pas forcément facile à avoir. Et maintenant, on l'a, quoi. Donc oui. C'est un nouveau pas pour. Je vais essayer de sortir une formule comme les astronautes, mais je sens que je vais me prendre les pieds dans le tapis.
Non mais vas-y, on t'écoute maintenant. T'as commencé.
C'est un petit pas pour No Watch, mais un grand pas pour le podcast indépendant francophone. Non mais c'est ouais. vrai que pour l'instant il n'y a que des gros médias qui ont cette page officielle, parce que je réponds à la chatroom, oui c'est Apple qui décide hein. Nous on n'y est pour rien en fait, et on est, on va dire, le premier média qui avons regroupé des podcasts indépendants à avoir notre page à côté des pages des gros quoi. Donc je trouve que c'est émouvant. En tout cas moi ça m'émeut.
Bah écoute, moi je t'avoue que oui, c'est vrai qu'on a essayé et travaillé longtemps pour l'obtenir, et effectivement on a la chance de. Alors, on n'est certainement pas les premiers, mais en tout cas, enfin, dans le monde, mais en tout cas, c'est
non,
vrai qu'il n'y en a pas beaucoup
Free,
en France.
En
ouais, Revision Free, Tweet en a une aussi, mais enfin, c'est vrai que être placé au même niveau que ces grands messieurs du podcast indépendant, ça fait quelque chose. Donc, voilà. Donc, la page No Watch sur iTunes, ça commence depuis aujourd'hui. Et on en est très, très content et très, très fier. Donc, je vais me contenter de vous donner moi aussi ce lien si vous voulez nous retrouver. Il y a plein de podcasts super top moumoute, peut-être certains auxquels vous n'avez pas forcément pensé, certains que vous n'aviez pas forcément, enfin dont vous ne pensez pas forcément qu'ils vous plairaient. Allez vous balader là-bas et puis vous pourrez voir qu'il y en a plein qui sont vraiment sympathiques. Donc on vous remercie de votre fidélité. On va remercier encore une fois Mehdi d'avoir été présent avec nous, et on espère que tout va continuer à bien se passer, ou en tout cas tout va bien se passer en Tunisie. On vous donne rendez-vous dans deux petites semaines pour un prochain épisode du Rendez-vous Tech, et d'ici là on vous souhaite de très bonnes semaines et on vous fait de grosses bises. Ciao à tous.
Plein de bisous. Ciao, ciao.
Elle est belle quand même, la page iTunes.
Ah, ça claque. Hein.
Save big money at Menards. Let the fresh air in and keep the bugs out with replacement screen for your doors and windows from AdForce. It's easy to install, durable against the elements, and comes in a variety of types to suit your needs. Repair your screens today with a roll of replacement screen. On sale through May 5th. And check out more great deals happening now in our weekly flyer on Menards.com. Save-